J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
La poubelle.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canus. Si vous nous rejoignez, on espère bien que malgré tout, vous écoutiez les bandes continues et les émissions qui se déroulent en direct ou qui se déroulent en direct ou parfois le soir évidemment qui sont enregistrés pour ensuite vous être diffusés afin de survivre à ce couvre-feu qui vient donc d'être avancé, hein, je cherche mes termes.
C'est samedi qui sera avancé, donc on a encore deux jours peinard à pouvoir faire des émissions un peu en direct.
Enfin, peinard. Hein. Donc autant vous dire que, bon, la semaine prochaine, on pensait ne pas être là pour des raisons, ma foi, à la fois professionnelles et autres, donc je pense qu'on ne sera pas là du tout. Même pas en différé. Enfin, on n'en est pas sûr, mais ça sera pour l'instant... voilà, comme ça. Nous verrons par la suite. On va parler de différentes choses ce soir. On va parler de société autoritaire. On va parler d'assassinat d'État. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de peine de mort dans cette émission. On va parler d'Israël-Palestine. Ça fait aussi, on en parle moins. Hein. C'est vrai que Laurent, tu as été un habitué de ce sujet. Et pourtant, il se passe toujours beaucoup de choses, hein, en Israël, beaucoup de choses en Palestine. On parlera d'enchères et on parlera de Tintin, on parlera d'Hergé. Hein, et puis on parlera d'agroalimentaire et puis de Covid peut-être aussi pour terminer. Mais d'abord, on voudrait avec Laurent vous parler de société autoritaire, de fichage de drones, de manif.
Oui, je vais faire un petit bilan. Alors, il y a des choses que vous avez déjà entendues parce que ça date un petit peu, mais là, je refais un bilan. Allez, on y va. Alors, on va commencer par le fait qu'on soit de plus en plus fiché. Alors ça, vous avez compris que le gouvernement aimait bien contrôler les populations. Donc, je commence par ça et puis après, on défilera, on parlera de la CNIL juste après, qui a pris une position plutôt intéressante aujourd'hui. Donc, suite à la proposition du gouvernement, donc de la création de fichiers, vous savez, sur lesquels les policiers peuvent mettre la religion, les idées politiques, les investissements syndicaux, associatifs, politiques. Le Conseil d'État avait été saisi le 10 janvier. Ce Conseil d'État a donc rejeté le référé suspension, c'est comme ça que ça s'appelle, contre les décrets du 2 décembre qui modifient ces trois fichiers de police, donc le PASP. C'est un acronyme, ça veut dire prévention des atteintes à la sécurité publique. Donc ça c'est pour la flicaille. Le GIPASP, donc ça veut dire gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique. Donc ça c'est l'armée là, vous savez, les gendarmes, les militaires. Et l'EASP, Donc ça veut dire enquête administrative liée à la sécurité publique. Et là, vous dites, ah mais ouais, mais rien que les flics, ils ont 3 fichiers, mais ils en ont plein d'autres en fait. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont des atteintes à nos libertés qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est la bonne nouvelle, hein. Et le Conseil d'État, non, c'est la mauvaise nouvelle, puisque le Conseil d'État a été saisi pour faire sauter ce truc-là, il l'a pas fait sauter. Alors ces fichiers, il y en a qui datent de l'histoire du hooliganisme, hein, il y a peut-être 10-15 ans, quand l'État a commencé à ficher ces petits fachos fans de foot, et puis c'est passé aux manifestants violents, et puis de plus en plus on généralise à toute personne. Alors officiellement, c'est soupçonné d'activité terroriste ou susceptible, je cite, de porter atteinte à l'intégrité du territoire et des institutions de la République. Donc bref, quasiment à toute activité politique. Parce que c'est tellement flou ces définitions que ça ouvre la porte à quasiment un fichage généralisé des militants. Bien sûr, celles et ceux qui ne sont pas militants, ils ne risquent pas grand-chose. Quoique, on n'est jamais à l'abri d'un fichage généralisé par la suite. Mais bon, voilà. Donc il y avait 7 organisations syndicales, la CGT, FO, LFSU, l'UNEF, Solidaire, le Syndicat des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature. Il y avait aussi le GISTI, le groupe de soutien aux immigrés. Donc bref, le Conseil d'État a dit à ces organisations syndicales pour nous, je cite, ces décrets ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion, de conscience, de religion ou à la liberté syndicale. Bon, ça on était triste, on l'a appris le 4 janvier qu'il y a eu ce rendu, donc il y a une petite semaine. Mais maintenant on en sait un peu plus. Et notamment, on sait qui a fait ce rendu, quel est le juge. Et vous allez voir que la boucle est bouclée, qu'en fait le système il est pernicieux de partout, puisque c'est Mathieu Hérondart, ce juge, qui a fait cet avis au Conseil d'État. Alors il est rentré récemment, il a réintégré récemment le Conseil d'État. Alors ce juge, donc, qui adepte des mesures de contrôle des populations, des mesures liberticides, en fait, entre juin 2017 et juillet 2020, il était directeur de cabinet de Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Ah, c'est ce gouvernement, donc ce ministère, ces ministères, qui sont à l'origine des lois. Donc il ne va pas aller contre, puisqu'il a bossé avec eux. Puis après, on apprend qu'en fait, entre 2008 et 2013, il était déjà secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, et en 2007, directeur adjoint du cabinet de Rachida Dati. Donc c'est un mec de droite qui est du côté du gouvernement et du ministère de la Justice, et forcément, quand il passe dans ce Conseil d'État, eh ben, ses amis politique, quand il passe une loi qui est attaquée, un décret là pour le coup, attaquée par des organisations syndicales qui représentent plutôt le camp adverse par rapport à lui, forcément, il va du côté de ses amis. Et on a l'explication un petit peu du pourquoi, du comment, alors que c'est une vraie atteinte aux libertés quand même, ce genre de généralisation de fichiers. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire qui est venue en plusieurs étapes. Le 4 janvier, on a le résultat négatif du Conseil d'État, et là maintenant, on a le pourquoi, du comment, quel est le juge et pourquoi il l'a fait. Tu voulais faire quelque chose ? Alors, maintenant, la CNIL a beaucoup mieux, même si c'est provisoire. Donc, une procédure de contrôle initiée en mai 2020. La CNIL vient de répondre à cette procédure de contrôle initiée, chargée de prononcer des sanctions, puisque la CNIL peut prononcer des sanctions. Et là, elle vient de sanctionner qui ? Le ministère de l'Intérieur, pour avoir procédé à des drones, donc équipés de caméras, en dehors de tout cadre légal. Et oui, la CNIL dit que les flics, leur hiérarchie, sont hors la loi. Bon, ils ont juste une remontrance de la CNIL, hein, ça, une sanction de la CNIL. Hein, si vous êtes hors la loi, vous pouvez finir en taule. Mais pas eux. C'est la grosse différence. Alors, en complément de cette sanction, qu'elle a rendue publique exprès, la CNIL, hein, c'est un truc super fort politiquement qu'elle fait, pour une fois, elle a enjoint, c'est comme ça que c'est écrit, le ministère de se mettre en conformité avec la loi, donc informatique et liberté. Elle demande aussi au ministère de cesser tout vol de drones jusqu'à ce qu'un cadre normatif autorise un tel traitement de données personnelles ou jusqu'à ce qu'un système technique empêche l'identification des personnes prises, filmées par les caméras de ces drones. Donc cette sanction et cette injonction qui l'accompagne, concerne l'utilisation des drones par l'ensemble des forces de l'ordre, dès lors qu'elles agissent sous l'autorité du ministère. Donc ça peut être les flics, la gendarmerie, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer de la part de ces deux services de répression et de contrôle des populations. Alors, si on revient en arrière, c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. On rappelle que dès mars 2020, il y avait pas mal d'articles de presse qui avaient révélé l'utilisation par les forces de répression de l'État de drones équipés de caméras. Alors ça, le but, c'était au départ de contrôler le respect des mesures de confinement. La CNIL avait déjà rendu un avis le 23 avril en disant que c'était pas jouable d'utiliser ces trucs-là. Et puis on a vu le 7 mai 2020 où la CNIL avait décidé de procéder à des contrôles concernant l'usage des drones. Encore une fois, les drones, là on n'est que sur les drones. Hein. Dans le premier temps, des questionnaires avaient été adressés au ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, un commissaire et un groupement de gendarmerie, tout ça, ces trois-là, ils ont répondu, et à partir de ça, la CNIL avait fait un essai en juillet 2020 dans les locaux de la préfecture de Paris, donc elle est allée, elle dit, montrez-moi les drones que vous avez, et montrez-moi les images que vous récupérez. À partir de ça, elle a émis donc cette sanction, parce qu'effectivement, avec les drones qu'ils ont, ils récupèrent des images, ils peuvent reconnaître les gens et faire du contrôle à partir de la reconnaissance faciale, et que c'est pas autorisé dans la loi. Alors, il y a quand même une limite à cette injonction, voire à cette sanction de la CNIL, c'est que la CNIL a enjoint le ministère à créer un cadre normatif, c'est-à-dire à faire une loi. Là, pour l'instant, la CNIL, elle dit, il n'y a pas de loi qui encadre, donc vous n'avez pas le droit. Après, du coup, ça laisse la porte ouverte à une nouvelle loi répressive, encore une, et c'est ce qui se prépare, du coup, avec ce qu'on comprend de ce qu'a dit la CNIL. Donc, on n'a pas forcément, nous, défenseurs des libertés ou simples citoyens, gagné sur le moyen terme ou sur le long terme. Et puis, pour terminer, pour ma partie, je vais peut-être te laisser faire ton... Je ferai la conclusion, non ?
Alors, comme tu veux, écoute, comme tu veux, tu voulais que je fasse quel sujet
T'as un sujet dans la
société. Tout à fait. Alors, c'était rapide. C'était juste pour dire que de partout, on a des violences policières, et de partout, il y a des manifestations, et c'était le cas en Belgique cette semaine. Des personnes se sont rassemblées pour connaître la vérité et en soutien à la famille sur la mort d'Ibrahima. Ibrahima, 23 ans, il s'est retrouvé au commissariat et il est mort. Alors l'histoire policière, je vais le présenter comme ça, nous explique qu'il aurait ingéré de la drogue devant les policiers et qu'il serait mort d'une overdose. La famille de son côté demande de la transparence et une enquête. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bruxelles pour homicide involontaire, puisqu'il y aurait des éléments contradictoires et problématiques entre le moment de son arrestation et l'heure de son décès. Voilà. Et de partout, on va retrouver la même problématique, c'est-à-dire les violences policières qui sont mises en accusation, mais aussi, il me semble, quelque chose de très important, c'est le manque de transparence sur les activités de ces forces de l'ordre et une protection des forces de l'ordre. Donc là, qu'il y ait une enquête qui soit ouverte pour homicide involontaire, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va tenter d'être positif dans cette affaire. Malgré tout, on retrouve de partout, c'est quand même, moi je trouve, c'est ces notions. C'est-à-dire, il y a la violence policière et il y a un manque de transparence, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Donc, hier, il y a des gens qui se sont rassemblés en Belgique, à Bruxelles. L'idée, là, évidemment, que je vous ai, c'était d'amener un soutien à la famille. Ibrahima, je ne vous l'ai pas dit, mais les Guinéens, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été arrêté. La couleur de peau fait que, quand même, on est discriminé face aux forces de l'ordre et face à la violence policière. Le truc que moi j'ai noté qui est quand même sympathique, c'est qu'a priori la presse belge semble assez d'accord pour nous expliquer que la voiture du roi Philippe s'est pris des petits cailloux ou des gros.
Ouais,
c'est-à-dire qu'apparemment il y a eu le convoi royal qui est passé et ils se sont pris de la caillasse dans la tronche. Voilà, c'était juste pour dire que personne n'est à l'abri de rien. Bon, il y a eu d'autres choses, évidemment, qui est mis en avant par la presse belge, comme des dégradations du mobilier urbain qui auraient été démonté et des policiers qui auraient été peut-être confrontés à quelques réactionnaires de rue. Mais la réaction est toujours pareille. Finalement, les gens descendent dans la rue, se retrouvent face à des forces de l'ordre qui encadrent quand même assez, de manière assez importante, les manifestants et les manifestantes, et ça finit par s'affronter. Voilà.
Voilà. Alors justement, il y a quand même une réaction possible à tout ça. C'est que il y a des manifestations encore contre cette loi de sécurité globale. Vous savez, celle qui est avec ces fameux articles qui vont à l'encontre des libertés individuelles. Donc c'est samedi dans toute la France. On sera le 16 janvier. Et celle de Lyon, elle part de devant l'IGPN. Alors du coup, j'ai appris où était l'IGPN. C'est le gros commissariat Neuf qui est 225 cours Émile Zola à Villeurbanne. C'est un commissariat qui a été fait il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Voilà, et donc a priori, l'IGPN est là-bas. Donc ça part de là-bas. C'est à toi de parler de la peine de mort.
Oui, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de la peine de mort, et on va parler évidemment de la peine de mort dans un des pays dits démocratiques qui pratiquent particulièrement l'assassinat d'État. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors vous savez que les États-Unis d'Amérique vivent un moment charnière de leur histoire. Il faut le dire quand même que voilà, un président sortant qui se retrouve avec un impeachment sur le dos, un président arrivant surveillé comme le lait sur le feu pour éviter de se faire descendre au coin d'une rue dans son convoi pas royal, mais en tout cas d'État. Des manifestants qui, pas contents, rentrent dans un Capitole, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ça sent le gaz. En tout cas, M. Trump va marquer l'histoire de son pays, certainement pas pour sa bienveillance et pour la paix dans le monde, même s'il a tenté de faire la paix avec la Corée du Nord. Personne n'y a cru, mais ouais, malgré tout...
personne n'y a cru, bizarrement.
Il est allé dans l'idée. Il va rester quand même pour des actions contre le climat, contre les femmes... Parce que, bien évidemment, c'est un agresseur, mais qu'il n'a rien fait non plus pour faciliter le mouvement MeToo, par exemple. Et puis là, il a agi en urgence, ces derniers temps. Donc, il aide ses amis. Donc, il y avait l'idée de savoir, est-ce qu'au niveau de justice, il allait gracier certains de ses amis, peut-être lui-même, d'ailleurs, certains prétendaient, pour éviter, parce que là, maintenant, M. Trump va revenir M. Trump, et qu'il va avoir quand même pas mal d'affaires au derrière, comme on dit. Il a fait passer plein de lois, hein, plein de projets, pardon, il a fait plein d'accords avec des boîtes pour des projets gaziers, pétroliers, en urgence. Là, il accorde des droits des entreprises, il met tout ça sur le marché pour aller très très vite. Et il y a un sujet sur lequel M. Trump a essayé d'aller là aussi très très vite, et c'est bien malheureux, c'est évidemment la peine de mort. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les États fédérés, c'est-à-dire un État, peut décider de pratiquer la peine de mort. Il y a des morts bâtards dans un certain nombre d'États. Il y a l'État fédéral, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui peuvent pratiquer la peine de mort, et il y a l'armée. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a des lanceurs d'alerte qui, quand ils sont militaires, faut pas qu'ils se fassent choper, parce qu'ils risquent, elles risquent la peine de mort. Hein. Donc il ne faut jamais oublier qu'il y a l'armée. Et c'est vrai que en termes de peine de mort de l'État fédéral, ça s'était bout de coup calmé quand même, il faut le dire. Ça représente pratiquement rien, beaucoup trop, bien évidemment, la peine de mort par la justice fédérale. Depuis 1977, parce que c'est les chiffres qu'on peut avoir et qui sont marquants sur un certain nombre d'États, il y a 1530 condamnés qui ont été exécutés aux États-Unis. 14 par la justice fédérale. C'est quand même extrêmement important. Et M. Trump avait décidé depuis juillet d'accélérer un certain nombre de mises à mort. Et donc, on a pour l'instant 10 personnes qui ont été exécutées sous son mandat. Là, il devait y avoir aujourd'hui et demain encore deux autres hommes, des Noirs. C'est important, aux États-Unis d'Amérique, quand on est noir face à la justice, on a plus de chances d'être coupable et exécuté que quand on est blanc. Hein, déjà, quand on est pauvre, alors là, je vous dis même pas, on accélère tout le processus. Et pour l'instant, alors avec les histoires de Covid, ces mises à mort sont suspendues. Il faut savoir qu'aux États-Unis, grâce au coronavirus et à la Covid, les États ont moins exécuté parce qu'il y a eu plein de problèmes de régulation, simplement. On a eu des surveillants, des bourreaux qui ont été malades. Tout ça a été très compliqué, donc ça a ralenti les exécutions, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vous rappelle qu'il y a 28 États, hein, fédérés, qui quand même peuvent encore exécuter aujourd'hui, légalement, hein, même si jamais certains ont décidé de lever le pied quand même sur la question depuis plusieurs années. On a... aujourd'hui, une histoire qui est tragique, c'est celle d'une femme. Depuis 1953, l'État fédéral n'avait exécuté aucune femme. Alors vous allez me dire, une femme, un homme, Delphine, ça change rien. On est bien d'accord. Mais ça, c'est même si on est aujourd'hui de plus en plus nombreux et nombreuses à penser qu'un homme et une femme, il ne devrait pas y avoir une discrimination sur le genre.
Pour le coup, s'il y a une discrimination positive sur la peine de mort, tant mieux pour elle.
Voilà, tant mieux. Mais malheureusement, le reste de la société ne pense pas forcément comme nous. Vous voyez, on fait encore des différences. Hein, on pense que quand il y a un bateau qui coule, il faut mieux sauver les femmes. avant les hommes. Voilà, oui, c'est toujours ses idées, hein. Et c'est pas de l'éthique, hein, c'est du conservatisme. Donc, malgré tout, c'est marquant puisque depuis 1953, aucune femme avait été exécutée par l'État fédéral. On vient donc d'assister, malheureusement, à la mort de, à l'exécution de Lisa Montgomery. Alors, 1953, c'est une femme qui avait été exécutée. Rosenberg, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un couple.
Les époux Rosenberg,
effectivement.
Accusés de complotisme communiste, là.
Oui,
ça. Enfin, pas de complotisme, de lien avec les cocos. Ouais.
Voilà. Donc, vous voyez, ça date. Enfin, c'est quand même une image un peu marquante. Lisa Montgomery, ce qu'elle a fait, c'est assez horrible. Hein. Je veux dire,
Mais alors, le truc, c'est que c'est une. A priori, elle a une maladie mentale.
Alors, elle a une vie. Elle a eu une vie absolument horrible. Alors, elle a été. Elle a passé quand même 16 ans dans le couloir de la mort. On rappelle le couloir de la mort, au niveau psychologique, c'est un truc assez atroce. Même quand c'est vous qui acceptez que vos avocats fassent durer pour éviter de mourir, c'est quand même quelque chose d'horrible de savoir que le coup près va tomber à un moment. Hein, quand même, les études montrent que c'est quand même pas le meilleur moment de ta vie. Donc en 2003-2004, elle rencontre une femme qui est enceinte, elle la recontacte, enfin lui explique elle aussi elle va avoir un enfant, tout ça se fait autour des animaux, tout ça, elle lui explique qu'elle veut adopter elle aussi un petit chiot, et donc c'est comme ça qu'une femme va accepter de la rencontrer. C'est horrible, hein, elle va la tuer, l'ouvrir et lui prendre son bébé.
Elle a un vrai problème. C'est
je vous la fais courte parce que
c'est plus de l'ordre de la psychiatrie que de la justice.
Mais même c'est horrible. Je vais dire, elle a fait ça quand les enquêteurs sont arrivés chez elle. Elle avait cet enfant, elle leur expliquait qu'elle avait donné naissance à cet enfant, et elle choyait cet enfant. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en train de maltraiter un enfant, elle était pleine d'amour. C'est une femme qui a vécu l'enfer. Il faut quand même aussi mettre ça en avant. Ce qu'on en sait, c'est que ça a été un fœtus alcoolisé. Enfance douloureuse, elle a été maltraitée, violentée, elle a été violée par son beau-père qui a priori fait venir des amis à lui pour la violer. Ouais. Elle a été prostituée par sa mère, toujours battue. Apparemment, son mari, qui était d'ailleurs quelqu'un de sa famille, l'a violée. La violenter. Donc, elle a grandi dans un environnement absolument catastrophique, fait de violence, de torture et de viol. Et en plus de ça, effectivement, comme tu l'as dit, il s'est avéré qu'elle avait une maladie mentale, peut-être bien liée au fait qu'elle ait eu un fœtus alcoolisé, oui. Mais aussi certainement du fait que dès l'enfance, dès qu'elle a été nouveau-née, dès qu'elle est née, elle a été maltraitée et qu'elle a subi des sévices.
Logiquement, on condamne pas quelqu'un comme ça.
Bah voilà. Et ben, malgré toutes les demandes de ses avocats qui ont tenté de faire lever cette peine de mort pour une perpétuité, ça n'a pas fonctionné. Monsieur Trump est resté insensible à cette question fondamentale. Peut-on assassiner quelqu'un qui est jugé irresponsable par une partie du métier de la psychiatrie? Peut-on, enfin, humainement le faire, alors, et juridiquement le faire?
C'est pas la première, hein. C'est régulièrement qu'il y a des condamnés à mort du coup masculin qui passent sur la chaise électrique ou autre, ou une injection, ou enfin toutes les méthodes barbares qu'ils utilisent, et qui sont considérés comme des malades mentaux et donc normalement qui rentrent pas dans le cadre du criminel, quoi.
Donc là, il aurait pu agir, Monsieur Trump, à la fin de son mandat. Il aurait pu marquer là aussi peut-être l'histoire.
Là, il gracie ses copains.
Elle n'allait pas sortir dans la rue, hein, cette femme. Hein, je veux dire, déjà, elle n'en est pas capable, a priori, intellectuellement. Ça va être très compliqué psychologiquement. Là, on est sur de la psychiatrie quand même. Elle allait rester en prison, certainement dans une de ces prisons très fermées. Ça n'allait pas être un moment joyeux pour sa vie. Elle a fait un truc horrible. Mais il aurait pu marquer l'histoire en changeant cette peine de mort, cet assassinat d'État, ce qu'il n'a pas fait. Puisqu'aujourd'hui, il insiste pour continuer à assassiner des gens jusqu'à la fin de son mandat.
Alors, un petit mot sur Israël-Palestine. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Alors, je voulais revenir d'abord parce que, en ce moment, suite à la campagne ultra réussie de vaccination de sa population, Israël, on a droit à plein de reportages sur Israël et qui montrent Israël sous un jour positif. Alors, bien évidemment, Israël, il y a des côtés positifs comme dans tous les pays. On ne va pas remettre ça en cause. Et sur la campagne de vaccination, ils ont déjà vacciné 20% de la population. Ils arrivent, grâce à eux, il y a des nouvelles études qui montrent d'ailleurs que les vaccins empêchent aussi la propagation du virus, et pas simplement les cas graves. Donc voilà, ils sont ultra performants, c'est les meilleurs. Ils ont payé les vaccins plus chers,
oui,
tout ça.
Ils ont payé les vaccins plus chers. Il faut rappeler que c'est quand même un pays qui est en guerre, et donc une partie de la population porte un uniforme. Donc en termes aussi de gestion de la population pour organiser un vaccinodrome, comme on dit aujourd'hui, c'est aussi plus facile parce que ta population, tu l'as sous la main.
Oui, et puis...
c'est un plus petit pays, enfin bon...
La taille ne joue pas, hein, puisque ça pourrait être...
Non, mais ils ont eu moins besoin d'en commander, donc ils ont pu les payer plus cher, ils ont...
Alors, il faut savoir qu'ils sont en campagne électorale, Netanyahou, oui. Puisque c'est encore... il y a un gros sketch en ce moment en Israël, avec la Knesset qui saute tous les 6 mois. Du coup, ça explique aussi qu'ils mettent le paquet. Alors, il faut savoir qu'ils sont très touchés en ce moment, ils ont une grosse vague aussi, un peu comme l'Europe et comme le reste du monde d'ailleurs. Mais donc du coup on a beaucoup de reportages positifs. Mais on va quand même rappeler ce qui se passe aussi, parce que pour l'instant ils ne vaccinent pas les Palestiniens, hein, et ils n'ont pas prévu de vacciner les Palestiniens. Hein, ça reste compliqué. Et justement il y a eu un truc assez incroyable, ça a été relayé pour une fois par des grands journaux, même Le Monde, tout ça. Il y a B'Tselem. Donc B'Tselem c'est une ONG israélienne qui s'occupe des violations des droits humains dans les territoires occupés et colonisés par Israël. Ça a été créé comme ça il y a une trentaine d'années. Et c'est leur but. Ils ne regardent pas ce qui se passe en Israël, mais dans les territoires occupés par Israël. Et il y a une dernière communication qui est sortie, qui est donc comme je l'ai dit, pas mal relayée, où, pour la première fois, B'Tselem dit « En Israël, il y a une politique d'apartheid ». Alors oui, nous, on utilise ce mot. Nous, en tant que militants, depuis très longtemps, on dit qu'Israël pratique une politique d'apartheid avec les Palestiniens, avec ce qu'on appelle aussi les Arabes palestiniens, donc les Israéliens non les Arabes israéliens, les Israéliens non juifs. Il y a aussi une politique de discrimination là-dessus, donc d'apartheid. Mais là, c'est symboliquement très fort que B'Tselem dise ça, l'assume, et ils vont très loin et ils expliquent. Ils expliquent vraiment pourquoi. Alors, je vais vous lire quelques extraits, en fait, du communiqué qu'a fait Orly Noy, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'espère, qui est donc membre du conseil exécutif de B'Tselem. Il explique, je vais le lire ce qu'il a dit. Depuis l'occupation de 1967, l'existence de la ligne verte, qui distingue notoirement entre l'Israël souverain et démocratique et les territoires occupés, est devenue, en grande partie, la différence entre le discours politique de gauche et de droite en Israël. Dans le même temps, pendant la majeure partie de son existence, Israël a fait tout ce qui était en son pouvoir pour effacer la ligne verte, non seulement en établissant des colonies, qui sont toutes illégales au regard du droit international, mais aussi en promouvant des politiques pratiquement identiques des deux côtés de la ligne, dans le but ultime de maintenir la suprématie juive absolue et exclusive. Ce sont des juifs israéliens qui utilisent le mot juif, hein. Je le reprécise parce qu'ils vont l'utiliser plusieurs fois. Les mécanismes et les tactiques pour ce faire sont similaires. L'un d'eux est l'ingénierie démographique du territoire en le divisant en subdivisions, en appliquant des statuts personnels différents pour les Palestiniens vivant dans chaque zone et en adoptant des politiques discriminatoires de vol de terre. Un autre réside dans un ensemble de politiques concernant l'immigration et la liberté de mouvement qui favorisent de manière flagrante la démographie juive. Un autre encore est la restriction de la participation politique sur la base de l'affiliation nationale afin de préserver cette suprématie. Et bien d'autres mécanismes encore. Il est vrai que l'apartheid israélien manque de certains éléments les plus visuels, du genre de ceux pratiqués en Afrique du Sud. Mais l'apartheid ne consiste pas seulement en des bancs séparés pour des personnes de couleur et pour des personnes non de couleur. Il s'agit plutôt de la division des êtres humains vivant sous le même régime en hiérarchie rigide et de la distribution des ressources publiques et de l'octroi ou du refus, des droits selon des hiérarchies. Israël n'a peut-être pas de banc réservé aux Juifs, mais il a des routes réservées aux Juifs dans des endroits comme Hébron. Il y en a plein d'autres. Cette logique organisationnelle a créé une réalité dans laquelle les Juifs israéliens jouissent d'un espace continu et d'une liberté de mouvement des deux côtés de la ligne verte, à l'exception de la prison en plein air créée pour les Palestiniens de Gaza. La même logique piège les Palestiniens dans les sous-catégories des zones A, B, C en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza, et dans ce qu'on appelle Israël proprement dit. Chacune de ces désignations s'accompagne d'un ensemble de restrictions uniques imposées par Israël. Ainsi, contrairement à un juif israélien, un palestinien résident en Cisjordanie ne peut pas traverser la ligne verte sans un permis spécial. Et même leur liberté de mouvement à l'intérieur de la Cisjordanie est limitée. Le fait que le régime d'apartheid israélien contrôle toute la zone entre le fleuve et la mer ne signifie pas que l'occupation n'existe plus. Au contraire, elle est tangible pour ces victimes palestiniennes. La position de B'Tselem ne cherche pas à effacer les différences existantes entre les réalités de la vie en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Est et dans les villes palestiniennes à l'intérieur d'Israël. Elle cherche plutôt à les placer dans le contexte plus large qu'Israël tente constamment de cacher. Dans ces lieux. Israël est le souverain de fait, et dans chacun d'eux, sous différentes formes, il impose un régime de suprématie juive. B'Tselem est arrivé à cette conclusion avec le cœur gros et le plus grand sérieux. Après 32 ans, il n'est pas facile de procéder à un changement de paradigme. Nous vivons et travaillons au sein de la société israélienne. Nous en faisons partie intégrante. Nous sommes bien conscients du recul et de la répulsion que ce mot évoque dans le discours public. Il parle du mot apartheid. Hein. Mais ignorer la réalité qu'Israël a délibérément créée pendant des décennies irait à l'encontre du mandat même que l'organisation s'est donné il y a plus de 3 décennies. Tout changement, quel qu'il soit, commence par une bonne lecture de la réalité que l'on cherche à modifier, par regarder cette réalité sous les yeux ouverts et par l'appeler par son nom. La réalité qui prévaut aujourd'hui entre le fleuve et la mer a un nom, l'apartheid. Le nier ne la fera pas disparaître. Au contraire, cela ne fera que l'accentuer. Reconnaître cette réalité est une étape nécessaire pour la corriger. C'est pourquoi B'Tselem invite l'opinion publique israélienne et la communauté internationale à regarder notre réalité avec courage, à en intégrer tout le sens et à œuvrer à la création d'un avenir différent fondé sur des droits de l'homme pleins et égaux pour tous les habitants du pays. Voilà, moi je trouvais ça pas mal, ce changement de paradigme et cette affirmation de la part de l'ONG israélienne B'Tselem. Bon, pendant ce temps, la vie des Palestiniens ne change pas, encore. Ils sont toujours bombardés, notamment dans la bande de Gaza, puisqu'hier, il y a eu, alors que la bande de Gaza est sous couvre-feu sanitaire, il y a eu un petit bombardement. Alors j'ai d'autres infos courtes sur, je vais le faire court du coup, sur Israël-Palestine. Une bonne nouvelle dans la campagne BDS, la campagne qui demande à boycotter les produits israéliens qui sont conçus, fabriqués, cultivés dans les colonies israéliennes, donc qui sont illégales. Suite à l'intervention d'une association qui s'appelle donc l'Association des universitaires pour l'Europe, respect du droit international en Palestine, on va appeler ça l'ORDIP. Hein. Donc l'ORDIP a demandé à l'IRT, donc c'est l'Institut de Recherche Technologique Saint-Exupéry, qui est à Toulouse et à Bordeaux, qui était en partenariat avec l'université Ariel. Donc Ariel, c'est une université israélienne qui est dans une colonie. Et donc ils l'ont dit, ben non, il faut, ben voilà, il y a des partenaires publics privés pour votre institut de recherche. Vous travaillez avec des gens qui sont hors la loi, qui sont dans un territoire volé. Et donc ils ont fait pression un petit peu, ils ont médiatisé les choses, ils ont saisi le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et ça a gagné, puisque l'IRT a finalement avoué, a fait savoir par courrier fin décembre que la collaboration avec cette université présente dans cette colonie d'Ariel était arrêtée. Voilà, une bonne nouvelle. Et puis une polémique qui est triste. Donc c'est à Bordeaux que ça se passe, la réunion de la commission municipale qui s'appelle Mémoire et lutte contre le racisme et l'antisémitisme a eu lieu donc début janvier et ça a créé une polémique. Alors c'est dommage, quand on crée un truc pour lutter contre le racisme, ça crée une polémique. Du coup le maire vert de Bordeaux est obligé de réagir. Alors je réexplique brièvement la polémique. Deux groupes s'affrontent, un groupe porté par l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, qu'on connaît bien, hein, qui se bat pour la Palestine, donc des juifs qui se battent en France pour le droit du peuple palestinien, et qui, eux, ont demandé officiellement que le mot antisémitisme soit enlevé parce qu'ils estiment que c'est un racisme comme un autre. Alors, on va pas rentrer dans la polémique, ça se défend, l'autre camp se défend aussi. D'ailleurs, la réponse du maire est assez claire là-dessus. En face, ils ont qui ? Ils ont l'Alicra. Et surtout, ils ont le CRIF. C'est leurs ennemis jurés, donc le CRIF, qui est le bras armé, on va dire, de l'État d'Israël sur les Juifs de France.
Bras armé, on va enlever le mot armé, s'il te plaît.
Mais c'est une expression, le bras armé, ça
veut
pas dire qu'il y a des armes.
Non, c'est une expression qui veut... Oui, ça veut dire...
Bon, enfin, bon, voilà, c'est l'instance qui est manipulée par Israël pour soi-disant représenter les Juifs de France. Donc eux, la LICRA et le CRIF ont dit, non, ben, nous on se barre hein, dans cette commission si on enlève antisémitisme. Moi j'ai l'impression qu'ils sont aussi bêtes les uns que les autres, hein, finalement. Bon, le maire, Pierre Urmic, a réagi à la polémique. Il a dit qu'il ne modifierait pas l'intitulé. Il expliquait pourquoi. Il dit l'antisémitisme n'est pas un racisme comme les autres. Et pour cette raison, je ne changerai pas l'intitulé. Il n'a pas totalement tort non plus. Il n'a pas totalement raison. Le problème est bien plus complexe. En tout cas, ça ne coûtait rien de le laisser. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que ces petites batailles de chapelle. Alors on sait très bien, l'UJFP, ils sont classés à l'extrême gauche. En face, ils ont la LICRA et le CRIF. Alors le CRIF, il est carrément à l'extrême droite. Hein. Et, la LICRA, on ne sait pas bien. Mais
ils sont institutionnalisés, la LICRA. Ils ont des subventions partout la
oui,
tête.
Ben, ils sont dans un positionnement qui n'est pas
beaucoup attaqué, même. Enfin, ils sont beaucoup attaqués, la LICRA,
oui,
quand même.
Oui. Bon, voilà. Donc, moi, je les mettrais dans le centre droit, tu vois, politiquement. Donc, il y a des batailles politiques. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que le but, c'est de se battre contre le racisme. Et que si on fait des petites guéguerres comme ça, eh ben, on n'arrivera à rien. Et on voit réapparaître le communautarisme. Hein. D'ailleurs, l'UJFP, des fois, est un petit peu limite sur le racialisme, tout ça. Donc, il faudrait juste qu'on apprenne à tous travailler ensemble pour lutter contre le fléau, ces fléaux que sont le racisme et l'antisémitisme, qui est effectivement un truc un peu particulier et qui est énorme.
Mais c'est un racisme quand même. C'est là où moi, je suis pas tout à fait d'accord avec
mais
toi.
Mais oui, moi aussi, j'ai tendance...
C'est que le mot racisme est suffisant parce qu'il est global et qu'il concerne tout le monde, tous et toutes. On peut être concerné et on peut se sentir lié dans la lutte.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance à parler que de racisme.
Voilà. Donc, je suis peut-être trop à l'extrême gauche et donc plutôt proche de certaines organisations.
Surtout pas proche.
Et pas proche des autres. Voilà. Ouais. Je trouvais que, voilà. En fait, ils sont surtout aussi attaqués parce qu'on les traite de justement trop proches des Palestiniens, de prôner certaines idées qui n'iraient pas avec un État israélien unique.
Oui, non mais alors.
Et grand et derrière tout ça, en fait, se cache surtout cette confrontation entre une idée politique de ce que doit être Israël et de ce que doit être le lien avec.
Du coup, c'est pour
Palestine.
Ça que je l'ai mis dans cette rubrique israélo-palestinienne, voilà. Alors que ça parle du racisme en France. Hein. C'est parce qu'ils importent du coup ce conflit dans ce sujet-là. C'est quand même bien dommage d'en être là. Mais on va pas défendre le CRIF. Hein. Vous inquiétez pas.
Bon, je m'inquiétais pas. C'est pour ça que je te reprenais. on va donc parler de Tintin et d'Hergé. Hergé, hein, accusé d'un certain racisme.
Non, pas certain, il était raciste.
Oui, d'un certain type de racisme. On va parler d'une vente aux enchères. Vous savez que Tintin, avec Hergé, on a souvent des ventes. Enfin, on a des ventes aux enchères. Certaines ont marqué effectivement l'histoire des ventes aux enchères. Là, ça concerne le Lotus Bleu. Lotus Bleu, vous voyez tous cette couverture rouge avec ce dragon noir, Milou et Tintin qui sont dans un vase. Très beau numéro finalement de Tintin.
Peut-être, ouais, une des plus belles pochettes. Ah, elles sont pas mal les pochettes de Tintin en général.
Enfin, mais aussi un très beau numéro de l'histoire, puisque en plus il avait rencontré quelqu'un avec qui il a eu une certaine amitié qui lui a permis de construire cette histoire.
Avec le personnage de.
Ouais, donc. Je suis en train de chercher son nom aussi, je l'ai sur le bout de la langue et je l'ai mangé. Ouais. Alors, on a donc cette vente aux enchères organisée par Arcurial d'un objet d'histoire pour Hergé. C'est un dessin, l'encre de Chine, gouache et aquarelle, qui était estimé entre 2 200 000 et 2 800 000 d'euros.
C'est cher quand même.
Pour un bout de papier. C'est un dessin qui date de 1936, qui est préparatoire à justement cette couverture du Lotus Bleu, qui n'est pas tout à fait identique, hein, puisque le fond est noir, on a un dragon rouge, mais on va vers évidemment cette couverture que maintenant on connaît tous et toutes. Cette vente a créé un petit peu une polémique. Alors d'ailleurs, ça a créé une histoire puisque le record d'un Tintin date de 2014, 2 510 000 euros frais compris. Hein, il fallait donc savoir si ce record allait être battu. Il a donc été battu puisque ce dessin préparatoire à cette couverture du Lotus Bleu a été vendu à 3 200 000 euros frais inclus. Donc un nouveau record, c'est énorme. Il y a quand même des gens qui comptent de la thune.
Non seulement, oui, puis ouais, c'est L'aura de Hergé diminue pas. Il est mort il y a pas longtemps. Il y a eu toutes les affaires. Alors, tout a été révélé sur
cette histoire. Son
antisémitisme et son racisme
est aussi liée à. Vous savez, Tintin, c'est extrêmement protégé. Il y a des gens qui ont essayé de caricaturer Tintin. Qui se sont fait taper sur les doigts assez sévèrement, qui ont dû retirer des dessins, c'est-à-dire qu'on a une protection sur le travail d'Hergé qui va au-delà de l'intelligence, à mon avis. Mais c'est mon avis.
C'est la famille, hein, je crois.
Alors.
Et Casterman, non ?
Pourquoi est-ce que c'est compliqué, cette vente, elle a eu lieu, hein, de toute façon c'est comme ça. Pourquoi il y a eu une polémique ? Alors il faut savoir que la personne qui aujourd'hui protège l'œuvre de Hergé, c'est Nick Rodwell. Nick Rodwell, il a été le mari de Fanny, qui a été la seconde épouse d'Hergé. Vous avez sorti le tableau blanc, ouais, et les stylos pour arriver à suivre.
Le mari Fanny, de la seconde épouse d'Hergé.
D'Hergé, c'est ça. Nick Rodwell, donc, c'est le légataire universel, c'est lui qui protège cette œuvre et qui décide un certain nombre de choses. Mais en face de ça, on a la société Moulinsart, gestionnaire des droits d'Hergé, qui est aussi agie. Et puis on a, comme tu l'as dit, Casterman, qui vient aussi parfois mettre son bout de nez. Et là, on a les héritiers Casterman qui ont mis leur bout de nez, puisque c'est eux qui détenaient ce dessin préparatoire. L'histoire voudrait, alors qui est évidemment portée par Arcurial, hein, et qui fait le tour de la presse, c'est que c'est Jean-Paul Casterman, fils de Louis, éditeur, hein, Louis, ouais, Casterman, qui a récupéré à 7 ans ce dessin offert par Hergé à donc petit Jean-Paul. Petit Jean-Paul, en fait, est mort en 2009 quand il était vieux. L'histoire voudrait que Jean-Paul a récupéré ce dessin d'Hergé, l'aurait plié, mis dans un tiroir, et il aurait été oublié jusqu'à aujourd'hui, 2020, pour être mis donc aux enchères. Enfin, donc il a été récupéré bien avant. La question, c'est qu'il y en a qui doutent un petit peu de cette histoire du petit Jean-Paul, 7 ans, à qui on fait ce petit cadeau, qui le met dans un tiroir et qui le ressort en 2020 pour être vendu. Enfin, c'est pas Jean-Paul, c'est la famille. Les héritiers. Donc, du côté des ayants droit, hein, et du côté de Nick Rodwell, on n'y croit pas trop à cette histoire, mais bon, on n'a pas bien pu faire grand-chose.
Parce qu'il est authentifié quand même, le dessin.
Alors, c'est pas tant finalement l'authentification. Tu fais bien de soulever cette question. Finalement, ça a été analysé une fois, deux fois, trois fois, 12 fois, 24 fois. C'est pas vraiment ça qui est remis en question. C'est, on, voilà.
C'est la magouille qu'il a pu avoir, quoi.
C'est plutôt d'où vient le dessin. Ouais. Est-ce que c'est petit Jean-Paul à 7 ans qu'il a vraiment récupéré ? Est-ce que les Casterman ont récupéré ce truc à un moment ? Comment tout ça a pu se trafiquer ? Et du coup, il y a eu un peu de la polémique. Et donc, on sent qu'il y a quand même un peu du gaz.
Bah, y a du, vu le prix qu'ils le vendent, celui qu'il a, il est riche, quoi.
Ah bah, voilà.
C'est ça le truc.
Enfin, celui qui l'a, le possède maintenant, est riche pour mettre 3,2 millions dans l'achat d'un dessin d'Hergé. Et puis les Casterman qui viennent de récupérer évidemment cet argent, bah, quelques millions en plus. On peut penser que la famille Casterman n'était pas tout à fait non plus à te plaindre. Voilà, mais c'est intéressant aussi de voir qu'aujourd'hui, donc, un dessinateur mort continue donc à faire polémique à la fois sur son travail artistique, bien évidemment, mais aussi sur la vente d'un certain nombre de ses dessins, et ça risque de se poursuivre parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on nous ressorte un dessin de temps en temps, voilà, et puis que ça fasse un peu d'argent.
Ouais, ouais. La polémique, elle s'éteint pas, parce que les œuvres de Tintin racistes, les vraies là, c'est les premières sur Tintin en Afrique, au Congo.
Bah, Tintin au Congo, quoi.
Voilà, Tintin au Congo, elles sont toujours là. Alors maintenant, normalement, il y a un petit.
Une présentation,
ce qui est importante. Après, le reste a été réécrit. Hein. Il faut savoir qu'il y avait de l'antisémitisme à pas mal d'endroits. Ouais. Les héros étaient les méchants, en fait, étaient plutôt tendance juive avec des noms juifs. Rastapopoulos s'appelait pas Rastapopoulos avant, en fait. Hein. Donc ça a été effacé, édulcoré. Tant mieux, hein, tant mieux. Parce que voilà, du coup, il y a pas de racisme, quasiment pas dans les autres BD de Tintin. Mais voilà, faut bien connaître l'histoire. Il a collaboré avec un journal qui collaborait avec les nazis. Enfin voilà, c'était. En plus, c'était un mec de droite réactionnaire. Hein,
la question, c'est de savoir qui a acheté cette chose. On parle même presque des gens comme George Lucas. Tu vois, c'est de dire, on ne sait pas bien. Ouais, c'est de dire qu'il était quand même assez énorme.
Voilà.
Bah voilà, on va bientôt y aller.
Il reste quoi ? On a encore une minute. Allez, t'as peut-être un sujet court ?
Un sujet qui énerve.
On est obligé de s'arrêter avant pour rentrer chez nous avant la fin du couvre-feu.
Bah, ça, je crois qu'ils ont tous été tout au courant. Allez, une histoire de Covid. Ouais. Juste histoire. Ça pas chez Essity, c'est une boîte qui fabrique des produits d'hygiène, papier toilette, essuie-tout. C'est un groupe suédois implanté en France et qui fait parler puisque ce groupe a réussi à mettre d'accord tous les syndicats, CFDT, CFE, CGC, CGT et Force ouvrière. Là, c'est un grand moment quand t'arrives à unir les syndicats, je trouve. Tout le monde est unanime pour dire que le petit bip-bip que propose Essity pour lutter contre le Covid, personne n'en veut. Alors l'idée, donc, t'es bien pour cent. Les ressources humaines ont dû beaucoup travailler sur la question. C'est donc de te coller un truc soit autour du cou, soit accroché à la ceinture, qui frappe bip-bip à 85 décibels quand t'es trop près de ton collègue ou de ta collègue. Alors ça fait un peu causer, peut te le dire dans l'usine. On n'en veut pas trop de ce machin qui fait bip-bip. On estime que c'est infantilisant et un peu débile, parce qu'en plus ça a un coût.
Ouais.
Hein, aussi, faut le dire quand même. C'est un boîtier électronique pour faire respecter une distanciation sanitaire. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, je pense. Je pense que M. Blanquer peut-être essayer de mettre ça dans les écoles, on se marre un coup. Alors on nous dit qu'il n'y a pas de système de géolocalisation, qu'il n'y a pas d'informations personnelles, et que c'est pour le bien-être des salariés. Bon, c'est vrai que la CFDT emploie ce terme d'infantilisant, c'est vrai que c'est quand même le cas, il faut bien le dire. Voilà, c'était les bonnes idées du Covid. Pas de ton idée aux ressources humaines, ouais. Soi-disant donc pour protéger les collaborateurs et collaboratrices, parce que forcément on n'est pas salarié, hein, même quand on fait du PQ. Voilà, et pour l'instant il n'y a pas d'entente et on espère bien que l'entente ne se fera pas sur cet objet.
Exactement.
Ouais, c'est tout.
Bon, bah, on va se quitter, on se retrouve donc pas la semaine prochaine et j'espère la semaine d'après. bon couvre-feu à 18h à partir de samedi.
Ouais.
Voilà.
Et puis voilà, ciao, que dire de plus. Allez, bonne soirée à vous tous et toutes.